un petit peu ce que je vous dis. C'est pas sur le champ de bataille que les soldats font des livraisons, c'est après. Et c'est un peu la même image, vous voyez. C'est pas pendant, pendant le traitement, etc., où les patients, ils y vont, ils sont à fond, etc. Mais c'est souvent après où on leur dit, voilà, vous êtes guéri, au revoir, merci. Et que tout d'un coup, tout l'entourage s'empresse d'oublier et qu'on vous demande d'être ce que vous étiez avant. Et or, c'est pas possible. C'est à ce moment-là où souvent les patients ont un moment de creux de vague, un moment compliqué dans leur vie.
Qu'est-ce qui peut expliquer ce moment de creux de vague ?
Parce qu'ils n'arrivent pas à être ce qu'ils étaient avant, parce que d'abord ils sont plus fatigués, en plus ils prennent conscience de ce qui vient de leur arriver, ils sont plus effectivement ce qu'ils étaient avant. Et comme ils sont entre guillemets guéris, on leur demande de redevenir le même qu'avant ou la même qu'avant.
Ça peut être très difficile.
Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et eux, non, il y a un recul qui fait qu'ils se sentent incompris, abandonnés. Et c'est une période extrêmement compliquée de la maladie, l'après-maladie. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut accompagner.
Quel est le rôle que la famille et les amis proches peuvent jouer dans cet accompagnement ?
C'est extrêmement important, ils doivent être là, mais après, il faut savoir comment ils sont là. Vous savez, c'est toujours très compliqué quand on est proche, parce que parfois, on en fait soit trop, soit pas assez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est compliqué, il faut avoir la bonne distance. Il ne faut pas être infantilisant.
Qu'entendez-vous par là ?
C'est-à-dire que le patient lui dit « Attends, non, mon chat, attention, tu vas prendre froid, fais-ci, fais-ça ». C'est insupportable. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus être dans le déni total. C'est-à-dire qu'il y a parfois des conjoints qui font comme si tout allait bien. C'est sympathique de faire comme si tout allait bien, mais comme tout ne va pas bien, il faut avoir quand même la bonne distance. Et ça, c'est vraiment la chose la plus compliquée, je pense, pour les aidants, ce qu'on appelle nous les aidants. C'est-à-dire les proches, la famille, les enfants, les parents, les conjoints, peu importe. Ce qu'on appelle nous les aidants, la chose la plus compliquée pour eux, c'est d'être dans la bonne distance. C'est-à-dire ni trop, ni pas assez.
Quelle est la meilleure façon par laquelle les aidants peuvent procéder quand ils apportent leur soutien aux malades ?
Je pense que le mieux, c'est de demander vraiment au patient, écoute, voilà, je suis là, de quoi as-tu besoin ? Et tu me dis, si tu veux que j'aille me promener ou si tu veux au contraire que je sois là, tu me dis, je pense qu'il faut être extrêmement cash et naturel avec le patient. Après, il ne faut pas que le patient non plus soit trop, parce que ça peut arriver aussi, que le patient soit un petit, entre guillemets, dictateur. Il faut que les proches aient aussi une aire de respiration, puissent aussi eux-mêmes avoir un moment à eux pour pouvoir un petit peu se libérer du contexte de la maladie, parce que c'est très compliqué aussi pour les aidants d'être dans la maladie tout le temps. Donc, c'est très important pour eux qu'ils puissent aussi avoir, aller prendre un poids avec des copains, ou aller faire du sport, ou je ne sais quoi, vous voyez.
En tant qu'oncopsychologue, à quel grand défi restez-vous confronté dans l'accompagnement que vous apportez aux malades souffrant du cancer ?
À quel quoi, pardon, je sais pas compris.
À quel défi restez-vous confronté jusqu'à présent ?
Moi, je pense que le grand défi, comme vous dites, c'est l'écoute. C'est des patients qui ont besoin d'être entendus. Alors, ce qui est bien avec l'oncopsychologue, c'est qu'ils peuvent déverser tout ce qu'ils ne peuvent pas déverser dans leur famille. Donc, ils peuvent me parler de leur angoisse de mort, de leur vie privée, du fait que leur conjoint ou leur conjointe n'est pas à la hauteur. Ils peuvent me parler du fait qu'ils se sentent abandonnés par leurs amis. Ils peuvent me parler de tout. Si vous voulez, l'oncopsychologue reçoit tout ce que le patient ne peut pas dire ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est extrêmement important. Ils peuvent déposer les valises, comme on dit. Voilà, ça c'est une expression très française. Ils peuvent déposer leurs valises là où ils ne peuvent pas le faire ailleurs parce que ils ont peur d'embêter, ou ils ont peur de choquer, ou ils ont peur d'angoisser, ou ils ont peur de je sais pas quoi. Chez l'oncopsychologue, il n'y a pas de peur. Voilà, ils mettent tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent, chez nous. Voilà. Alors, on sert à ça, en fait.
À quel stade de la maladie les malades qui viennent vous consulter sont-ils souvent ?
Alors ça, franchement, c'est à n'importe quel moment, ça va de l'annonce à l'après-maladie. Alors l'annonce, c'est très compliqué pour nous les oncopsychologues, j'entends. C'est l'annonce, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour nous, parce que le patient n'a pas encore le recul nécessaire de sa maladie, et donc il déverse tout comme ça dans le désordre, etc. Mais après, nous, les oncopsychologues, on les suit donc de l'annonce jusqu'au traitement, avec tout ce que ça implique, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physiologique. Et puis après, ça va vers la fin des traitements. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à l'après-maladie, où c'est aussi un moment un petit peu compliqué. Oui, il y a cette espèce de sentiment d'abandon et d'incompréhension de son entourage où tout le monde, évidemment, s'empresse d'oublier et où tout le monde pense que tout va bien et c'est fini. Si vous voulez, c'est un peu, on balaye un petit peu tout le parcours de l'annonce à même l'après-maladie. Nous, on est là quand le patient a besoin de nous.
Donc, ce sont toujours les patients qui viennent vers vous ou vous aussi, vous allez vers les patients?
Moi, je travaille dans l'institution, souvent, dans l'institution, c'est des patients qui viennent vers moi. J'ai fait aussi l'hospitalisation. En hospitalisation, on va vers les patients, mais il faut être très patient en hospitalisation, parce que ce n'est pas du tout la même démarche que quand ils viennent vous voir.
En quoi consiste la différence selon que c'est vous qui allez vers les malades ou que ce sont les malades qui viennent vers vous?
Quand ils viennent vous voir, il y a une demande de leur part. Donc là, c'est plus facile. Quand ils viennent vous voir, vous savez très bien qu'ils viennent pour une, voilà, parce que c'est un truc qui va pas, ou parce qu'ils sont angoissés, ou parce que je ne sais quoi, enfin, peu importe. Mais en chambre, quand nous, on va les voir, là, c'est à l'hôpital, où le patient peut vous dire, sur le coup, ouais, non, mais tout va bien, bon, vous leur dites OK, etc. C'est beaucoup plus difficile en chambre que quand, en institution, où le patient prend rendez-vous avec vous. Donc, ça veut dire que lui, il fait la démarche d'aller voir un psychologue et donc, il a envie de parler. Donc, c'est très différent.
Vous êtes aussi onco-sexologue. Est-ce qu'on peut dire que le cancer a un impact sur la vie sexuelle des malades?
Ah, ben, bien sûr. Ah, ben, on peut le dire à 1000%. Psychologiquement, déjà, il y a une indisponibilité psychique qui fait qu'il y a un impact sur la sexualité. C'est-à-dire que parfois, la maladie envahit tellement psychologiquement le patient qui est sexuellement, ça va. Et en plus, physiologiquement, il y a des traitements qui atteignent le patient. Alors d'abord, il y a la fatigue. À cause des traitements, voilà, sexuellement, c'est compliqué. Le cancer de la prostate, par exemple, ça entraîne des dysfonctions érectiles. Le cancer du sein, il y a déjà tout ce qui concerne l'image du corps, l'image de la femme par rapport à elle-même. Il y a énormément d'impact sur la sexualité.
Est-ce que vous conseillerez donc à toute personne qui souffre le cancer de se faire suivre psychologiquement? Est-ce que c'est une démarche que vous conseillerez à beaucoup d'entre eux?
Écoutez, moi je suis psychologue, alors je vais pas vous dire le contraire. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin, enfin, entre guillemets, qui disent « ouais, moi j'ai pas besoin, j'ai mes copains, j'ai ma famille, j'ai mon mec, je sais pas quoi, mon mari, ma femme, enfin moi, etc. » Le cancer est quelque chose d'extrêmement traumatique. Je pense que en tant qu'oncopsychologue, une personne atteinte de cancer, même celle qui vous dit « ouais, non, tout va bien », moi je crois pas. Vous savez, moi quand une patiente me dit « oh, moi tout va bien, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'aller voir un psy », toujours un petit doute parce que je me dis quand on a un cancer, tout ne peut pas aller bien. C'est pas possible. La démarche d'avoir un oncopsychologue est importante parce que c'est quelqu'un qui peut vous accompagner à chaque étape de la maladie. Un accompagnement, c'est pas une psychanalyse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un accompagnement. Donc, c'est différent. Et aller voir un psy, c'est pas parce qu'on est de la tête. Hein. C'est pas ça. Il y a des gens qui confondent. En oncopsychologie, c'est pas parce qu'on est malade de la tête, mais c'est juste parce que c'est un moment extrêmement difficile de sa vie. Qu'on ne peut pas toujours partager avec ses proches pour X raisons, parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas envie de les embêter, parce qu'on se sent incompris, parce qu'on se sent seul dans ce parcours.
Et l'oncopsychologue est là pour accompagner?
L'oncopsychologue est là justement pour accompagner tout le long de ce parcours, toutes les épreuves, aussi bien physiques que psychologiques. Après, je respecte ceux qui n'ont pas un oncopsychologue, hein.
Quel conseil pouvez-vous donner aux auditeurs qui nous suivent et qui sont confrontés au cancer, qui vivent au quotidien avec le cancer ou qui pourront un jour faire face au cancer?
Pour l'Afrique, il faut le dépistage parce que je ne suis pas sûre qu'en Afrique, ce soit un truc qui soit bien intégré. Peut-être que les femmes africaines ne sont pas au fait que les Européennes. Nous, on a la mammographie tous les 2 ans, gratuite, etc. Bon. Il faut absolument que les femmes africaines aillent au moins tous les 18 mois. Moi, je suis pas pour tous les 2 ans. Alors, moi, enfin, c'est très personnel. Hein. Je pense que ce qui est extrêmement important pour les femmes africaines, c'est qu'elles se fassent dépister au moins une fois tous les 18 mois. Vraiment. Et c'est rien, c'est une mammo, ça fait pas mal. C'est que dalle, c'est rien à côté de la chimio.
Quelle est l'importance du dépistage dans la lutte contre le cancer?
Pour moi, c'est le béaba, quoi. C'est comme un vaccin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est du même niveau qu'un vaccin. Il faut vraiment se faire dépister. C'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment le message que j'aurais passé aux femmes africaines qui ne sont peut-être pas au courant de ça. C'est que le dépistage du cancer du sein, c'est quand même un truc qui relève du béaba de la médecine, de l'hygiène médicale, quoi.
Quel âge les femmes devraient-elles commencer à faire leur dépistage?
surtout à partir de 40 ans. Parce que malheureusement, il y a de plus en plus de cancers du sein jeunes. Donc à partir de 40 ans, alors disons, de 40 à 50, une fois tous les deux ans, je veux bien, bon, même si, admettons. Mais après 50 ans, une fois tous les 18 mois, franchement, il faut le faire.
En fait, on peut dire que plus tôt on se fait dépister, plus tôt on se fait prendre en charge.
Mais évidemment, et le pronostic vital va être beaucoup moins engagé que si on le découvre trop tard, parce que trop tard, ça peut être vraiment compliqué, quoi. Il va être pris à temps, donc soigné dans des meilleures conditions, soigné plus rapidement, on va éviter peut-être des métastases, enfin des choses compliquées.
Donc il n'y a pas de mesures préventives adéquates contre le cancer ?
Écoutez, les mesures préventives contre le cancer, c'est des mesures préventives sur toute la santé. Ne fumez pas, ne buvez pas, faites du sport, mangez des fruits, des légumes et tous ces machins-là, bon, très bien. Mais ça, c'est pour toute la santé, en règle générale, cancer y compris. Malheureusement, il y en a qui font tout ça et qui ont quand même des cancers. Donc, c'est pour ça que la prévention, c'est parce qu'on bouffe des ananas toute la journée et qu'on fait du sport et qu'on fume pas et qu'on boit, qu'on est à l'abri. On va peut-être limiter les risques, mais on n'est pas à l'abri quand même. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire des mammos d'une manière assez régulière à partir d'une quarantaine d'années.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était Catherine Adler-Tal, oncopsychologue et oncosexologue en France. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur les efforts dans le monde visant à mettre fin à la poliomyélite. La sécheresse oculaire, peut-on la prévenir et comment la traiter? Les réponses d'un expert. Au Soudan du Sud, un groupe d'hommes s'attelle à briser les tabous autour de la menstruation. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est une infection virale qui attaque le système nerveux et peut provoquer une paralysie irréversible en quelques heures. La poliomyélite touche plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Le virus se transmet d'une personne à une autre, souvent à travers de l'eau contaminée. Il y a 30 ans et plus que la polio paralysait des centaines de milliers d'enfants chaque année. Mais aujourd'hui, le nombre de cas dans le monde entier a largement diminué. Au Nigeria, un jalon a été franchi. Le dernier cas de poliovirus sauvage a été enregistré dans le pays il y a 3 ans. L'accent est maintenant mis sur 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan. Voici le reportage de Carole Pearson.
Administrer le vaccin contre la polio est une procédure simple. Mais dans certaines parties du monde, les vaccinateurs risquent leur vie pour protéger les enfants contre cette maladie capable de les paralyser toute la vie. Au début de cette année, les vaccinations ont été interrompues lors d'une manifestation tribale au Pakistan. Les vaccinateurs ont été attaqués et tués après que des rumeurs anti-vaccins se soient propagées sur les réseaux sociaux. Mais malgré les dangers, de nombreux vaccinateurs poursuivent les efforts pour mettre fin à la polio, une maladie affectant principalement les enfants de 5 ans et moins. La maladie est de plus en plus rare. En 2018, seuls 2 pays, l'Afghanistan et le Pakistan, ont signalé des cas de poliovirus sauvage. Dans ces 2 pays, l'eau potable est une denrée rare, ce qui rend difficile l'éradication du virus. En effet, le virus se propage par l'eau ou les aliments contaminés.
Nous avons détecté du poliovirus dans les échantillons d'eau prélevés ici au Pakistan. Ça, c'est un signe qu'il faut rester vigilant. Il est urgent de faire vacciner les enfants pour prévenir la maladie.
Il n'y a pas que les problèmes d'eau et d'hygiène qui favorisent la transmission de la polio. Au Pakistan et en Afghanistan, de nombreuses familles se déplacent fréquemment entre les 2 pays, ce qui rend difficile la vaccination.
Les 2 pays doivent travailler ensemble et le font de plus en plus, partageant des données de surveillance et coordonnant les dates de campagne de vaccination. Tout cela a un impact positif.
Pour le moment cependant, l'OMS reconnaît qu'il sera difficile d'éradiquer la maladie à court terme.
À moins que vous n'atteigniez zéro cas, il y a des risques que la maladie se propage au-delà même des deux pays, car il s'agit d'une maladie contagieuse et propice aux épidémies.
Pour sa part, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite compte poursuivre la lutte et espère qu'en 2023, aucun enfant ne contractera plus la polio.
Pour en savoir davantage, nous joignons à Genève Oliver Rosenbauer, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé pour l'éradication de la poliomyélite. Monsieur Rosenbauer, merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction face à l'accomplissement du Nigeria qui a pu atteindre 3 ans sans aucun nouveau cas de virus sauvage de polio? Et comment maintenir ce succès à long terme?
C'est un accomplissement incroyable.
Oui.
Si on considère qu'il y a un peu plus de 20 ans, à travers le continent africain, il y avait 75 000 enfants qui ont été paralysés par ce virus chaque année dans chaque pays. Et on sait que c'est un virus, le poliovirus, qui est fortement contagieux, qui voyage facilement avec les mouvements de population. Et on sait qu'il y a dans d'autres régions du monde, notamment le Pakistan et l'Afghanistan, où ce virus circule encore. Et le danger existe que l'Afrique ou le Nigeria soient réinfectés. On a vu ça beaucoup de fois. Et donc, la meilleure chose que les pays peuvent faire, c'est deux choses vraiment. C'est maintenir de hauts niveaux de taux de vaccination pour leur population. Comme ça, si un virus revient ou est importé dans le pays, il n'a pas moyen de s'établir, si vous voulez. Et deux, de maintenir une surveillance très, très sensitive que si ce virus est en effet importé, qu'on le détecte rapidement et qu'on puisse répondre rapidement. Donc, ces deux choses-là, c'est critique que les pays le fassent.
Le Ghana a enregistré récemment un cas de poliovirus dérivé d'un vaccin. Comment cette forme de polio affecte les progrès déjà accomplis sur le continent?
Oui, ça souligne vraiment ce risque de ces virus, de n'importe quelle souche. Ça se propage facilement dans les régions où les taux d'immunité ne sont pas suffisamment hauts. Et donc le cas qu'on a vu au Ghana démontre ça à nouveau. Il faut absolument que oui, on a eu ce fantastique succès que n'importe où en Afrique, on n'a pas vu de poliovirus sauvage depuis 3 ans, mais ce n'est pas terminé la lutte globale contre le virus. Et tant qu'il existe n'importe où, il faut être vigilant.
Aujourd'hui, l'Afghanistan et le Pakistan présentent encore des cas de poliovirus sauvage. Quels sont les défis à relever afin d'aboutir à l'éradication de la polio dans le monde?
Je crois que dans ces deux pays-là, un des plus grands défis qu'ils ont, c'est bien sûr de vacciner chaque enfant. Et il y a beaucoup de mouvements de population entre ces deux pays. Si vous regardez la frontière entre ces deux pays, l'Afghanistan et le Pakistan, la frontière, c'est approximativement 2500 kilomètres de longueur. Et chaque jour, plus de 50 000 enfants traversent cette frontière. Quelques-uns ont des traversements officiels, mais la plupart dans des traversements non officiels. Donc, pour trouver les enfants, si vous voulez les vacciner, il faut premièrement les trouver. Ça, c'est un des principaux défis qu'ils ont. Les deux pays collaborent ensemble pour adresser ce défi et ils font beaucoup de progrès. Mais il y a encore le virus qui circule et il faut absolument que ces deux pays-là suivent les exemples du Nigeria et d'autres pays en Afrique qui avaient les mêmes défis aussi. À travers l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de mouvements de population. Et le Nigeria, en coordination avec d'autres pays, dans le Sahel, dans le Lake Tchad, ont coordonné leurs activités ensemble pour vraiment assurer que chaque enfant, même ceux qui sont par des groupes nomadiques, sont trouvés et vaccinés.
Et juste pour un rappel, Monsieur Rosenbauer, quelles sont les recommandations de l'OMS pour une lutte efficace contre la polio dans le monde?
En effet, la polio est une maladie dévastatrice. La cause est paralysie pour la vie, principalement dans les enfants. On ne se guérit pas de la polio. Quand on l'a pour la vie, mais ça peut être préventé via la vaccination. Et donc, c'est très important que chaque enfant soit vacciné et protégé de la polio.
Sentez-vous souvent une sensation de brûlure dans les yeux ou peut-être des douleurs, des démangeaisons et même parfois une vue brouillée? Si oui, vous pourriez avoir les yeux secs. Le syndrome des yeux secs ou sécheresse oculaire se produit lorsque vos larmes ne permettent pas une lubrification adéquate des yeux. Le docteur Stéphanie Marionneau, porte-parole de l'Académie américaine des ophtalmologues, donne des conseils pour prévenir le dessèchement des yeux et pouvoir y remédier.
C'est un petit peu compliqué parce que il y a des choses, des produits que vous pouvez acheter dans le magasin, la pharmacie, et ça aide, mais il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Il y a des choses, mais les larmes artificielles ne tiennent pas tellement aux yeux. Ils évaporent rapidement. Alors, à la fin, ce n'est pas en solution pour longtemps. Alors, il faut vraiment aller chez le médecin, chez l'ophtalmologue, pour déterminer si c'est bien les yeux sèches ou bien c'est peut-être quelque chose d'autre. Enfin, le traitement, il y a des produits que le médecin peut vous donner. Et il y a les goûts, il y a deux choix, et ce sont des goûts différents. Mais il y a un qui fait la production des larmes et les autres. Et l'autre, c'est pour diminuer l'inflammation aux yeux. OK, ce sont les goûts différents, mais ils marchent très bien. Mais il faut avoir la prescription pour les avoir.
Selon les experts, d'autres astuces telles que cligner des yeux régulièrement lorsqu'on passe beaucoup de temps devant un écran d'ordinateur ou durant la lecture peuvent aider à réduire la sécheresse oculaire. Et surtout, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. La menstruation ou les règles sont un phénomène normal, naturel et propre à chaque femme. On appelle règles les écoulements sanguins que les femmes connaissent chaque mois dès la puberté jusqu'à la ménopause. Selon des sondages, une jeune fille sur 10 en Afrique ne va pas à l'école quand elle a ses règles et cela pour plusieurs raisons, y compris le prix inaccessible des protections hygiéniques, l'absence de toilettes propres ou d'intimité pour se changer, ainsi que certaines croyances et des tabous culturels. Nous vous avons demandé votre avis à ce sujet. Dieudonné Kasisi Untumwa de Goma en RDC nous dit « C'est toujours l'Afrique, mais il y a un problème de la formation, l'éducation de base. Certains parents pensent que c'est à l'école où l'enfant doit apprendre sur son corps. Le moyen financier pour se procurer des serviettes hygiéniques constitue aussi un défi. Le changement de mentalité et mode de vie reste nécessaire pour atténuer cette tendance. » Au Soudan du Sud, un groupe d'hommes et de garçons tente de briser les tabous culturels sur la menstruation. Men for Women distribue des serviettes hygiéniques aux filles et encourage la gente masculine à engager un dialogue sur le sujet. L'organisation plaide pour des lois qui pourraient rendre les produits d'hygiène plus accessibles aux filles. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons du stress. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou.
C'est ici que s'achève Votre santé, votre avenir. Ce magazine était centré sur l'accompagnement psychologique des personnes vivant avec le cancer. Nous étions en compagnie de Catherine Adler-Tal, oncopsychologue et oncosexologue en France. Elle a expliqué pourquoi les victimes du cancer ont besoin d'un accompagnement psychologique. Puis, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Nanit Talani était à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.